Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une
femme. I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épaule entre subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Wendy Delorme.
Je trouve les émotions beaucoup plus impudiques qu'une vulve, par exemple. Voilà. Donc moi, je vais plus facilement montrer mon corps nu qu'exprimer une émotion qui me fragilise devant quelqu'un en qui j'ai pas confiance, par exemple. Voilà. La pudeur, et c'est historiquement situé. Où est-ce qu'on place la pudeur? Qu'est-ce qu'on doit cacher? Et qu'est-ce que ça donne comme moyen de contrôle sur les gens, en fait?
Il existe un art féministe d'écrire le passé et le futur. Dans l'épisode précédent, j'évoquais avec Geneviève Brisac l'Orlando de Virginia Woolf et ce set voyageuse du temps qui préfigure presque les transidentités contemporaines. Et puis il y a Her Land d'une de mes idoles, Charlotte Perkins Gilman, qui imaginait au tout début du XXe siècle le fonctionnement d'une société entièrement exemptée d'hommes. Dans La parabole du semeur, Octavia Butler imagine en 1993 la société américaine de 2025, une société de violence et de chaos que seule peut sauver l'empathie. Et puis il y a bien sûr La servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai eu la chance de recevoir dans la poudre. Une étrange et inquiétante prévisualisation de l'Amérique trumpiste. Toutes ces autrices féministes ont pour point commun de puiser dans le présent les éléments qui nous démontrent où nous conduirait le pire, mais aussi où se situe l'espoir. Et c'est exactement ce que fait dans « Viendra le temps du feu » Wendy Delorme. Wendy Delorme était bien là, bien présente, sur la scène du carreau du temple ce soir-là, pour la première rencontre de la poudre en présentiel depuis longtemps. Parce que les livres, c'est bien, mais les corps, je crois, c'est encore mieux. Avec Wendy Delorme, on a parlé de Rosa, de Raphaël, de Grace et de Louise. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Waouh. Je nage dans un bonheur, mais complètement surréaliste en fait. Ça n'a aucun sens d'être aussi heureuse. Je me suis fait belle pour vous en plus, à part mes cheveux parce que j'ai la frange qui repousse, c'est des vrais soucis. Alors j'ai cherché plein de façons de faire une introduction où il n'y aurait pas le mot présentiel, tout ça, mais en fait j'y arrive pas. J'avais vraiment envie de parler du fait que si j'avais dû refaire une rencontre sur Zoom, je me serais peut-être pendue. C'était merveilleux de pouvoir faire ces rencontres malgré le confinement, malgré toutes les contraintes qu'on a connues collectivement. Je voudrais saluer la gentillesse et le professionnalisme du Carreau du Temple pendant toute cette période, parce qu'on a pu continuer à faire ces rencontres virtuellement. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Paris Interprétation, qui a été là aussi au rendez-vous, également sur Zoom, et qui a permis à beaucoup de personnes sourdes d'assister à ces rencontres, et c'est toujours un plaisir de savoir que c'est le cas. Je voudrais remercier les poudreuses et les poudreux aussi qui ont été là par centaines à chaque rencontre, et c'était aussi vraiment super
de pouvoir faire ces rencontres avec un public plus nombreux en fait qu'en physique. Et puis surtout, je voulais remercier Sam Boursier, Mam Fatou Niang, Kautar Archi, Gwenola Ricordo et Fatima Wasak, bah, qui auraient dû monter sur cette scène et qui n'ont pas pu et qui ont été tous et toutes très professionnels et généreux malgré les circonstances. Voilà, mais voilà, on n'est que 80 dans la salle ce soir à cause de la jauge réduite, mais ça va être mieux que sur Zoom. Parce que je vais voir vos corps remuer sur des sièges, je vais vous entendre respirer, soupirer peut-être, rigoler j'espère. Je vais voir les yeux de mon invité briller quand vous allez l'applaudir tout à l'heure, et ça, ça n'a vraiment pas de prix et j'ai envie de pleurer donc. Voilà. La dernière fois que nous étions dans cette salle, c'était avec l'historienne Bibia Pavard pour parler de révolution. Mon invité de ce soir ne fait pas de l'histoire, mais des histoires. Et ça a tout à voir. À travers son œuvre qui commence à peser un sacré poids, elle raconte toute l'importance de l'écriture dans les luttes féministes, l'importance de la transmission, l'importance de construire des ponts entre le passé et le futur, et surtout la nécessité de rêver à d'autres sociétés, des meilleures ou des pires. Je vous demande d'accueillir très, 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 très chaleureusement Wendy Delorme.
Bonsoir, merci Lorraine pour l'invitation.
Ben, merci d'être là Wendy, c'est vraiment chouette qu'on reprenne avec toi, avec ce sourire.
Je suis un peu émue, j'avoue.
Wendy Delorme, vous êtes, comme toutes mes invitées de cette saison, une savante, docteur en sciences de l'information et de la communication, enseignante à l'université Paris 4, mais vous êtes aussi une militante et une artiste. Une performeuse qui s'est produite sur de nombreuses scènes, dans des shows queer et burlesques sous divers pseudonymes, et une écrivaine. Nous vous devons 7 ou 8 livres, ça dépend comment on compte, dont 5 romans. Ça fait des années que je vous suis et que je vous lis. Je crois même que j'avais parlé de vous dans ma vie précédente, quand j'étais journaliste au magazine Elle, et que j'étais très, très loin de saisir toute la portée politique de votre travail, car vous étiez encore bien seule en 2007, lorsque vous avez publié votre premier ouvrage, Quatrième Génération, un peu seule à parler d'hétérosexualité comme un régime politique, même s'il y avait bien sûr déjà des pentes. Si je vous reçois ce soir, c'est parce que votre dernier livre viendra Le Temps du Feu, paru il y a quelques mois dans la collection Sorcières de Cambourakis, est un enchantement. Un bonheur à lire, un roman captivant qui se dévore d'une traite, et aussi un manifeste féministe, queer et écologiste qui aide à penser le monde. Ce roman, il laisse entrevoir un futur plus ou moins proche, pas vraiment daté, en tout cas plutôt moche. Mais ce roman, dites-vous, n'est pas vraiment une dystopie. Pourquoi ?
Bah déjà parce qu'il se finit bien. Et ensuite, parce que lorsque je l'écrivais, j'étais dans... Déjà, je ne suis pas vraiment nourrie de littérature de science-fiction ou d'anticipation, même si évidemment j'ai lu Margaret Atwood, P.D. James, Octavia Butler. Mais on peut prendre toutes les scènes de ce roman et je peux vous raconter que c'était des scènes réelles de la vraie vie, presque toutes. Hein. Et en tout cas, elles font toutes écho à des choses qu'on a vécues en Occident au XXe siècle. Et en ça, ça se rapproche peut-être de ce qu'écrit Margaret Atwood dans sa postface à La Servante écarlate, une des rééditions de La Servante. Elle explique qu'elle n'a rien inventé et que tout ce qui est dans ce livre, c'est une sorte de compilation de maltraitance contre les personnes assignées femmes à la naissance, contre les minorités sexuelles et de genre qui ont existé à travers les âges dans différentes zones du monde. Et ça m'a marqué. Et je pense que j'écrivais sur le quotidien, en fait, mais un quotidien incrémenté.
Il y a des scènes qu'on reconnaît. Par exemple, il y a un moment, il y a une cathédrale qui brûle. Donc très concrètement, vous avez regardé Notre-Dame brûler en vous disant ça fait une super bonne scène dans mon roman qui se passe dans le futur.
C'est-à-dire que quand la cathédrale a brûlé et que j'ai vu toutes les réactions qui se sont enchaînées dans les mois qui ont suivi, médiatiques, personnelles, beaucoup de gens étaient émus. je me suis dit, OK, il y a quelque chose, un symbole. Et ça m'est resté. Et à un moment donné, quand j'ai écrit donc, l'histoire de ce groupe révolutionnaire, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que va faire un groupe révolutionnaire ? Il va brûler des symboles. Voilà, à ce moment-là, ça m'est revenu. Mais l'écriture, c'est très organique. Et moi, je ne décide pas forcément à l'avance. Et après que j'ai écrit cette scène, une amie qui me relie m'a dit « Mais dis donc, c'est l'incendie de Notre-Dame ». Je dis « Ah mais oui, mince !» Enfin, ce n'était pas prémédité, parce que voilà, c'était plus intuitif.
Il y a même un peu d'anticipation, parce que ce roman, vous avez fini de l'écrire, je crois, le 31 décembre 2019. Et 3 mois plus tard, il y avait le confinement. Et dans ce roman, il est question aussi de confinement et de couvre-feu. C'est assez troublant, quoi. On peut presque croire que vous l'avez écrit en ayant connu ce qu'on allait vivre ensuite, quoi.
Oui, c'était très perturbant parce que lorsque j'ai envoyé le livre à Isabelle Cambourakis et qu'on en a parlé, on était déjà dans une période de confinement. Je lui dis, mais elle savait du coup que j'avais fini de l'écrire avant parce que j'ai passé 3 ans dessus et que la première version a été finie fin décembre 2019, du coup, effectivement. Mais le couvre-feu, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça a eu lieu pendant la guerre d'Algérie. On n'en est pas à notre premier couvre-feu. Et il y en a eu pour des raisons politiques. Et on sait qu'à chaque fois que... Enfin, le couvre-feu, c'est un symptôme de privation de liberté, quand même. Donc là, on l'accepte pour des raisons sanitaires. Mais historiquement, c'est symptôme d'autre chose.
Alors, je m'interrogeais quand même, parce que bon, c'est vrai que dans ce livre, effectivement, comme Margaret Atwood le dit souvent, rien n'est inventé, mais n'empêche qu'il se passe dans le futur. Et c'est intéressant comme démarche, c'est une démarche qu'on retrouve en fait dans beaucoup chez beaucoup d'autrices féministes. Vous avez cité Octavia Butler, on pourrait citer Ursula Le Guin, ou encore Charlotte Perkins Gilman avec Earland, qui est un livre plutôt utopique, même si un peu bizarre aussi. En quoi ça peut être un geste politique, un geste féministe, de projeter le présent dans le futur ?
Alors, j'étais pas très décidée au début si ça se passait dans le passé ou dans le futur. Parce qu'il y a d'une part une société utopique de personnes résistantes à une société oppressive qui se sont organisées entre elles et qui ont choisi le féminin pluriel pour s'autodésigner comme un geste politique. Et d'autre part, il y a cette société qui prive de liberté. Et j'étais pas très, très sûre de est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est le futur, parce que tout ce qu'il y a dans ce livre, ce sont des choses qui ont existé quelque part dans le monde à un moment donné. Et ça pourrait être un futur, mais en même temps, c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'anticipation, c'est de l'incrémentation de choses qu'on a vécues, qu'on vit encore. Par exemple, je parle des frontières fermées et de la manière dont les survivantes et les survivants des migrations sont bloqués et de la manière dont on les laisse dépérir. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde réel, en fait. C'est déjà une dystopie.
Et effectivement, enfin, vous parlez du passé et ce livre, il raconte aussi la transmission des savoirs, des écrits passés vers l'avenir. Il y a un personnage, Louise, qui trouve dans un sous-sol des livres interdits parce que, évidemment, dans cette époque-là, on ne peut plus lire de livres, c'est trop dangereux. Et ce livre, c'est Les Guerrières de Monique Wittig. Alors, vous ne le dites pas, mais on le comprend pour qui connaît un peu ce texte. Pourquoi Les Guerrières et pourquoi Monique Wittig ?
Parce que Monique Wittig a fait que je suis qui je suis, tout simplement. Quand la première fois que je tombe amoureuse d'une fille, j'avais 21 ans. Et ma première chose qui m'est arrivée, c'est que je me suis dit, je ne suis pas normale. J'ai 42 ans aujourd'hui, donc je parle d'il y a 21 ans. Enfin, voilà, je parle d'il y a 21 ans, en fait. Comme j'étais étudiante, et que je lis beaucoup, mon premier geste a été de chercher dans les livres des choses qui me ressemblent. Et je suis allée dans une librairie et j'ai demandé des livres qui parlent de lesbiennes. Et la personne qui travaillait à la librairie m'a donné La pensée straight de Monique Wittig. Et ça a été une claque. Le monde n'a plus été jamais le même. La première fois que je l'ai lu, je n'ai rien compris. Puis je l'ai relu une deuxième fois et j'ai pris des notes. Et puis après, ça a inspiré une partie de ma thèse. Et surtout, c'est comme si j'avais chaussé des lunettes pour regarder le monde et qu'il n'avait plus du tout les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes perspectives. Il n'y avait pas de retour en arrière.
Donc ce texte, La pensée straight, c'est un texte qui est plutôt théorique, qui est plutôt un essai politique. Les guerrières, c'est l'aspect plus littéraire de Wittig. Pourquoi c'est ce texte-là qui est le livre survivant ?
C'est vrai que quand on parle de vitigue, aujourd'hui on parle un peu plus des guerrières parce qu'on a fêté l'anniversaire des guerrières il y a 2 ans à la Maison de la Poésie et c'était un beau moment. Mais vitigue, dans le domaine des études de genre et des études féministes, qui est le champ académique dans lequel je m'inscris, elle est citée surtout effectivement pour La Pensée Straight, ce recueil de textes théoriques féministes. Mais du coup, j'ai découvert plus tard parce que on m'a commandé en fait un chercheur et une chercheuse collègues m'ont commandé un texte sur Monique Wittig en 2014. Et c'est le moment où je me suis sentie pas du tout légitime pour écrire sur Wittig parce qu'elle a beaucoup d'exégètes en France et aux États-Unis, des gens qui ont plus d'envergure et de bagage que moi, enfin qui ont plus écrit. Et donc je me suis dit, je vais relire non seulement tout Wittig, mais en plus je vais lire tout ce que les gens ont écrit sur Wittig. Je me suis mis une pression de dingue. Et je me suis rendu compte qu'en fait son œuvre littéraire en France était très peu valorisée, explorée, beaucoup moins que son œuvre politique dans ce recueil-là en fait. Et Les Guerrières m'a particulièrement frappée parce que, comme il est écrit au féminin pluriel, dans chaque livre de Wittig, il y a un travail sur l'énonciation. Son premier roman, L'Oponax, est écrit au neutre, au on. Donc cette personne du singulier qui n'a pas de genre, le on. Et on se rend compte plus tard dans le livre que c'est une enfant qui parle de sexe féminin. Les Guerrières est écrit au féminin pluriel. Et le travail de Wittig, à chaque fois, c'est de déconstruire dans la langue la domination du masculin. Et ce procédé-là, il donne lieu à quelque chose d'extrêmement poétique. Et c'est très manifeste dans Les Guerrières. Et c'est un très beau texte à lire à voix haute. Parce que ce féminin pluriel, il crée vraiment quelque chose de puissant par la poésie. Et je pense que c'est en se créant des contraintes comme ça qu'on arrive à créer des textes vraiment poétiques, en fait.
D'ailleurs, enfin, à force de le répéter, on oublie, mais ce mot « guerrière », il n'existe pas, en fait. C'est un mot déjà qu'elle invente. Le titre même, ça raconte bien ce qu'elle fait dans ce livre. Alors, Viendra le temps du feu, c'est un roman choral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages dont les voix s'entrecroisent pour laisser entrevoir petit à petit le réel. Tous ces personnages écrivent, ce sont tous et toutes des écrivains veines. C'est une accumulation de points de vue situés, si on voulait un peu le restituer en termes universitaires. Et c'est une méthode que vous avez déjà employée dans Le corps est une chimère, qui est votre précédent roman. Ça me fait penser à votre travail au sein du collectif RERQ, dont vous faites partie, avec 6 autres autrices, dont notamment Rebecca Chaillon, qu'on aime énormément à la poudre. Est-ce que c'était une façon de refléter le processus d'écriture collective que vous revendiquez au sein de RERQ ?
Et c'est vrai que ça fait 2 romans que je fais avec ce procédé-là, et ce n'était pas intentionnel. Viendra le temps du feu, les personnages me sont venus les uns les unes après les autres. D'abord la voix d'Ève, qui ouvre le roman. Et puis, m'est venue la voix de Rosa, qui est coincée sous la pierre, après que la montagne ait collapsé. La montagne est une métaphore du patriarcat, en fait. Mais elle a écrasé les guerrières. Et ça parle du backlash, du coup. Enfin, bon, y a toute une symbolique derrière cette montagne, et puis les guerrières qui creusent la pierre et tout. Bon. Et cette accumulation de voix, elle est venue... En fait, peut-être je suis mystique, hein, mais moi, voilà, mes personnages me sont venus comme des voix qui m'ont parlé, donc j'en ai fait un roman. Mais effectivement, à un moment donné, il faut tisser le texte et il faut. J'ai appris en tant que chercheuse qu'on doit tout justifier. Le corpus, la méthodologie, enfin rien ne doit être pris au hasard et je pense que c'est intéressant d'appliquer ça à la littérature. Pourquoi ton personnage, il écrit, en fait ? Qu'est-ce qui fait que ton personnage prend la parole si tu n'es pas un narrateur omniscient ? Et donc chaque personnage a une pratique de l'écriture. Louise écrit dans son journal intime. Raphaël écrit une lettre d'adieu à sa mère avant de mettre le feu. Grace écrit sur des parchemins dans un sous-sol où elle est terrée, où elle se cache. Parce que, et je pense que ça ne doit pas être gratuit. Et parce que l'écriture, elle fait que les mots restent et qu'ils peuvent être transmis. Et dans cet univers, en fait, je pose vraiment la question de la transmission des vécus, des histoires, des mémoires, et qui peut passer par des traditions orales, mais quand les personnes disparaissent, eh bien, c'est compliqué. Donc, du coup, le texte écrit, il a ce pouvoir-là de faire durer les histoires, de faire durer les mots et qu'on n'oublie pas.
Et le fait d'écrire en collectif, d'avoir des concerts de voix qui écrivent ensemble, parce que je sais qu'avec RERQ, vous revendiquez le fait d'écrire des textes de façon collective sans forcément les signer individuellement, par exemple. C'est quelque chose qui est, je sais pas, une piste littéraire, une piste politique.
Oui, après, ça fait qu'on doit mettre en place des dispositifs. Donc, nous, on se crée des documents partagés où on... Et du coup, on va arriver comme des petits cadeaux, les bouts de phrases, de chapitres des écrivantes qui participent au document. Et c'est comme un jeu, en fait, de rebondir les unes les uns sur les autres. Et ça crée un texte qui est comme la vie, c'est-à-dire qui se crée au fur et à mesure, et on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, on a été sollicité par Aurélie Olivier pour écrire un texte qui va paraître en septembre, Lettre à des jeunes poétesses. C'est un texte voilà, qu'on a écrit donc à six plumes. Et le dispositif, c'était ça. On ouvre un document, on décide d'un procédé d'écriture, on va s'adresser à quelqu'un et chacune va écrire une phrase. Et on voit le document se créer, mais comme la vie se crée, c'est-à-dire que ça vient s'agréger au fur et à mesure et on rebondit les unes sur les autres, puisque chaque interaction qu'on a, elle dépend de la précédente. On me pose une question, je réponds, on rebondit, et c'est comme ça que ça se crée. Donc voilà, ça fait une écriture qui est comme la vie, en fait.
C'est trop beau, j'ai décroché un scoop en plus, je suis trop contente. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je lise un petit passage? Vous préférez le lire vous-même? C'est comme vous voulez.
J'ai envie d'entendre votre voix.
Bon, d'accord. Je vais faire un petit trigger warning. Agression sexuelle et sexe et automutilation. Et pourtant, c'est un passage court, désolée. Ève, j'ai pris quelques amants. Ça m'a été facile, bien plus qu'on l'imagine. Et puis j'ai arrêté. J'étais devenue comme allergique au toucher. Mais j'ai le souvenir de leurs mains sur mon corps, de toutes leurs mains, celles de mes amantes et celles des autres, ceux qui me donnaient des avoirs pour ça. Je n'aurais jamais cru qu'un jour toute ma peau crierait ce besoin d'une main qui la touche, n'importe laquelle. Mais si un seul d'entre eux se met à me toucher, je risque de hurler, de cabrer et de mordre. Mon cerveau jaillira de mon crâne dans une explosion. On ne retrouvera de moi que des taches sur les murs, des fragments d'os broyés, des cheveux en paquets collés jusqu'au plafond. Ma minuterie intérieure est sans arrêt possible. C'est celle d'une bombe bloquée sur le retardement. L'enfant a trouvé mon cran d'arrêt l'autre jour, planqué dans le tiroir de ma table de chevet. Elle m'a demandé si j'avais déjà blessé quelqu'un avec. Je lui ai répondu calmement, personne, à part moi-même. Je ne peux pas lui dire que le plat du couteau, frais, lisse, aimant, s'est glissé sur ma peau durant de longues minutes, que le manche est entré dans mon vagin, tandis qu'une langue, une bouche, se posait sur ma vulve. Louve m'a baisé une fois avec ce couteau. Il lui appartient. Elle m'a fait jouir trois fois. Après qu'elle eut couché tout son corps sur le mien, j'ai tendu la main et rouvert le cran d'arrêt en un claquement sec. J'ai entamé ma peau, elle a saigné des veines et elle a bu mon sang.
C'est le passage le plus intense du roman.
Ouais, mais c'est marrant parce que je cherchais hier quelle page j'avais envie de relire et ce passage m'était tellement resté en fait. Et j'ai ouvert le livre au hasard et je suis tombée sur la page. Donc je me suis dit, bon, ça veut dire que c'est celui-là.
Et c'est fou que ce soit ce passage que vous ayez choisi parce que j'en fais des lectures de ce livre en librairie. Et en le relisant, je me suis dit, mais ça parle déjà de ce qu'on a vécu pendant le confinement, en fait. L'extrême solitude. Et bon, voilà.
Ouais, et puis dans ce passage, je trouve qu'il y a en fait beaucoup des thématiques de votre travail. Enfin, il y a le travail du sexe, il y a le viol, il y a l'amour lesbien, l'amour entre deux femmes. Il y a le corps, enfin tout est là quoi en une page. Je trouve que ça condense énormément d'aspects de votre travail. On est dans la poudre et dans la poudre on aime bien explorer le parcours personnel des invités. Mais pour vous, il m'est venu une idée un peu particulière. Je voudrais que pour chaque partie de votre parcours, on parte d'un personnage du roman. C'est un peu tordu. Hein. Je pense que ça marche.
J'aime bien les jeux.
Je crois que ça marche. Parce que j'ai l'impression que chacun, chacune vous raconte un peu. Voilà, donc elles et ils sont tous écrivains, écrivaines, comme on l'a dit. Et je voudrais quand même glisser un mot pour remercier infiniment les interprètes qui ont traduit le passage qu'ils m'ont préparé à l'avance. Elles assurent grave. Margot, Laura, Marie, merci. Merci. Alors, j'aurais commencé par Rosa. Rosa, c'est l'ancienne. C'est celle qui était là aux prémices de la création de la communauté de sœurs. C'est la mémoire, c'est la pionnière. Rosa qui écrit « Puisque je n'ai plus à moi que quelques jours, seule dans ce lit de pierre qui sera mon tombeau, le moment est venu d'écrire mon histoire. Elle est proche de la mort. » Et pour moi, elle symbolise une personne qui est présente dans nos vies à toutes, et surtout dans la vôtre, c'est la grand-mère. C'est l'ancienne. Je crois que votre grand-mère, elle est importante pour vous. C'est elle qui vous a appris à lire, à écrire. Qu'est-ce qu'elle vous a appris d'autre, cette grand-mère ?
Ah, bien vu. Mes deux grand-mères ont joué un rôle extrêmement important pour des raisons différentes. Ma grand-mère maternelle m'a appris à lire et à écrire avant l'heure de l'école parce qu'elle était institutrice, fraîchement à la retraite quand je suis née. Et quand j'avais 3 ans, elle a commencé à peaufiner sur moi une méthode d'apprentissage alternatif de la lecture qu'elle avait élaborée tout au long de sa carrière avec des élèves qui n'arrivaient pas avec la méthode classique. Et une méthode qu'elle a ensuite brevetée. Donc je suis arrivée au CP, je savais lire et écrire, on m'appelait Stéphanie maîtresse, Stéphanie étant mon prénom d'état civil. Et donc j'aidais les copains et les copines à faire les dictées, et choses comme ça. Bon. Mais tout ça pour dire que ma grand-mère s'est mise en tête que je serais écrivaine et recopiait à la machine à écrire les poèmes que j'écrivais quand j'étais gamine et les envoyait à des éditeurs. Bon, personne ne voulait publier des poèmes d'une gamine de 8 ans qui écrit sur la mer et les chevaux, évidemment. Mais du coup, elle m'a fait ce cadeau qui est incroyable, c'est de croire, alors, en tant que petite fille, née en 79, tu peux écrire, ce que tu écris vaut quelque chose, quelqu'un s'y intéresse et ça pourrait être publié. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à grandir avec ce cadeau-là. Donc c'est un vrai cadeau qu'elle m'a fait. Après, le personnage de Rosa, plus concrètement, il s'inspire de militantes lesbiennes qui ont 1 ou 2 générations de plus que moi, que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à militer dans des groupes contre l'homophobie, le sexisme et la transphobie. Et je trouve que moi, les anciennes m'ont tellement forgée, inspirée, et je les aime tellement, en fait, parce que c'était pas du tout pareil d'évoluer en tant que lesbienne à leur époque, et le courage et la force et la détermination et la joie aussi. Dans ces mouvements-là, il faut en parler, de la joie. Donc voilà, parce qu'on parle du patriarcat, mais on ne parle pas de la joie qu'il y a à lutter ensemble. Donc c'est le titre d'un très bel ouvrage d'ailleurs de Juliette Rousseau, Lutter ensemble.
Ouais. Ouais. Et La joie militante, qui est un ouvrage qu'elle a traduit qu'il faut lire aussi, qui
absolument
fait du bien.
Ouais.
Ouais, carrément. Bah oui, je voulais qu'on parle de cette transmission entre les différentes vagues féministes. D'ailleurs, dans 4e génération, c'est un petit peu le point de départ. Vous revendiquez un espèce de renouvellement du féminisme qui est nécessaire, mais en même temps, une espèce de continuité aussi qui est très importante avec les luttes anciennes, parce que finalement, elles sont tout le temps effacées. C'est un peu ça le souci. D'ailleurs, dans le livre, vous dites que ça finit bien, et ça finit bien, mais il y a quand même une disparition aussi de ces noms gravés dans la roche et de ces récits qui ont été soigneusement consignés par les sœurs, par les guerrières, qui disparaissent sous le poids de la montagne qui s'effondre. Et ça raconte aussi bien à quel point l'histoire des femmes en général et du féminisme en particulier est tout le temps effacée, quoi.
Et qu'il faut réinventer. Enfin, on a l'impression de réinventer à chaque génération. Quand je militais à 21 ans, 22 ans, j'avais l'impression de... Parce que du moment où je tombe amoureuse d'une fille, direct, je me suis mise à militer, en fait. Parce que quand tout d'un coup, on change de perspective sur le monde. Puis voilà, on m'a fait lire Wittig. Comme on découvre, on a l'impression que c'est... on a l'impression que ça émerge en même temps que notre conscience politique. Sauf que non, il y a une histoire derrière. Voilà.
Mais vous aviez lu Colette, par exemple.
Oui, c'est vrai. Et Georges Sand. Et c'est vrai que c'est des autrices qu'aujourd'hui on pourrait considérer comme classiques, mais si on resitue quand même, quand on lit Colette à 12, 13 ans, ben, ça laisse des traces, ça laisse des marques.
Et ben, ça ouvre aussi sérieusement le champ des représentations et des possibles, quoi.
Oui, parce qu'il y a une forte tension érotique dans les Claudines, chez Colette. Il y a le personnage de la directrice du pensionnat où grandit la petite Claudine et Mademoiselle Sergent, donc, qui sont très proches. Et si on lit entre les lignes, on se rend compte que c'est une romance lesbienne.
Un peu cachée. Parce qu'on est au début du XXe siècle, il ne faut pas non plus déconner. Le second personnage que je voulais qu'on aborde, c'est Raphaël. C'est le seul homme cis du roman. On le lit à travers, comme vous le rappeliez, une lettre qu'il écrit à sa mère. Raphaël, évidemment, mais un peu comme tous les personnages du roman, il incarne la résistance politique. Il colle des slogans sur les murs. Et ça rappelle encore quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour moi, c'est votre facette de chercheuse. C'est l'universitaire. C'est le gardien des livres, le gardien des savoirs. Il écrit. Peut-être as-tu, maman, lu ces lignes au lycée quand tu étais plus jeune. C'est un poète ancien qui était étudié, si je me fie aux notes inscrites à l'encre pâle dans les marges du livre ouvert sur mes genoux au moment où j'écris. Dans le secret d'un lieu où des hommes comme moi se retrouvent la nuit pour vivre dans leur chair, ce qu'exprime ce poète. Vous avez écrit une thèse, Wendy Delorme, c'est quand même pas rien. Ça veut forcément dire que vous avez vous aussi passé des heures dans une bibliothèque avec des livres annotés posés sur vos genoux. Qu'est-ce que ça a apporté à votre militantisme déjà, à votre vie personnelle aussi, d'avoir ce titre, celui de docteur ?
C'est drôle parce qu'en France, on n'en fait pas tout un étalage, alors qu'en Allemagne, par exemple, je suis d'ascendance allemande, si tu prends ton billet d'avion pour l'Allemagne, avec Lufthansa, par exemple, on te demande si tu as un titre, et donc tu peux être Frau Doktor. Voilà. Et en fait, n'importe où tu vas, sur ta carte de visite, même si en fait, ton job, ce n'est pas à l'université, t'es doctor, c'est... Voilà. C'est que tu as fait ça dans ta vie, tu as pondu 600 pages sur un sujet.
T'as ça été vaut le coup d'être rappelé la vie, moi, je trouve, franchement, c'est pas rien.
Mais qu'est-ce que ça m'a apporté En fait, pour ma thèse, j'ai beaucoup lu du coup, sur l'histoire des mouvements LGBTQI+. Et ça, pour toute la première partie de ma thèse, parce que j'écrivais sur le sexisme et l'homophobie, dans les représentations médiatiques, mais aussi sur les contre-discours militants. Donc il fallait que j'historicise et que je replace ce que j'étudiais, qui était des discours militants du début des années 2000, dans l'historicité, en fait. Donc j'ai consulté des archives, Guépier, j'ai lu des historiens et des historiennes de ces mouvements-là, et ça m'a vraiment ancrée. Je me suis dit, en fait, je suis dans une filiation de personnes qui ont lutté, et ça m'a vraiment donné l'importance de ça, en fait. Et Raphaël, c'est pas anodin ce personnage, parce que Raphaël, j'ai un enfant qui s'appelle Raphaël, et en fait c'est un fils qui écrit à sa mère, et je voulais parler du rapport entre un fils et sa mère, parce qu'élever un garçon dans ce monde, c'est pas anodin non plus, quand on est féministe, et être parent, c'est une des choses les plus difficiles, parce que ça nous confronte à nos propres limites. Comment tu rends explicite ce monde à des êtres qui le regardent comme un... et qui remettent tout en question, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un personnage d'enfant dans le livre aussi, ouais, qui essaye de comprendre c'est quoi l'État, c'est quoi la police, et qui... Du coup, je me suis amusée à décrire le système avec les yeux de l'enfant.
Mais évidemment, l'enfant, il viendra. Mais c'est mon dernier personnage, alors ne faut pas spoiler mon interview, s'il vous plaît, Wendy. Là, on était sur la chercheuse. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que depuis, je sais pas, 15 ans, en fait, 2006-2007, là où les premières apparitions publiques en tant qu'autrice, vous avez toujours su, concilier les différentes facettes, en fait. Oui, je suis chercheuse, oui, je suis autrice, oui, je suis aussi performeuse. Et ça, j'ai l'impression que c'est du grand art, parce qu'en France, généralement, on préfère quand les gens, ils ont une étiquette assez simple. Et je me suis demandé si c'était quelque chose que vous avez été inspiré par vos voyages que vous avez fait à San Francisco, je pense dans votre vingtaine, où on croise beaucoup plus en Californie de personnes qui sont à la fois chercheuses et performeuses. En fait, qu'est-ce qui vous ont apporté ces voyages ?
Après, j'ai quand même un nom de plume, hein, parce que au moment où je finissais ma thèse, et où mon premier roman a été publié. Ce roman, il parle quand même de BDSM, il parle de sexualité alternative, c'est une auto-fiction. Et puis, il a été présenté, ce qui n'est pas du tout anodin, comme un document témoignage. Donc, c'est-à-dire que quand on est une personne assignée femme à la naissance et qu'on écrit sur la sexualité, dans une plume qui était volontairement orale, parce que le dispositif d'écriture, c'est une jeune femme de 27 ans qui raconte sa vie entre Paris et San Francisco et qui parle de sexualité. Ça peut pas avoir le statut de roman, évidemment. Donc, bon, il s'est passé ça. Et pour moi, à l'époque, comme j'étais en thèse, écrire de manière orale, c'était un parti pris, en fait. C'était pas juste parce que je racontais ma vie. Et à ce moment-là, il m'a été conseillé par des professeurs que j'avais de prendre un pseudo. Parce qu'effectivement, en France, écrire sur les sexualités, faire du burlesque, donc exposer son corps nu sur scène, faire des performances où le corps est en jeu, bah, ce n'est pas forcément raccord avec la respectabilité académique. Et ça crée un clash qui, moi, me questionne, en fait, parce que... De mon point de vue, c'est historique en fait de cacher le corps. Quelle partie du corps tu caches ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas cacher tes cheveux sur une plage et montrer tes jambes jusqu'en haut des cuisses en portant une mini-jupe ? En fait, le rapport au corps dans l'espace public et ce qu'on cache ou ce qu'on montre, ce qu'on est autorisé à cacher ou à montrer, ça montre très précisément où on en est du sexisme et du racisme dans la société. Et donc ça me questionne. Donc je trouve ça très important d'utiliser le corps aussi pour faire passer des messages. Et je pense qu'il y a une légitimité politique à ça et qu'il y a une épistémologie des savoirs politiques qui passe à travers le corps, à travers la manière dont on montre ou pas le corps, donc qu'est-ce qu'on en fait. Donc j'étais tout à fait capable de défendre mon truc, mais on m'a dit, tu sais, si un jour tu peux avoir un poste à l'université, c'est peut-être bien que tu aies un pseudo. Bon, à l'arrivée aujourd'hui, la plupart de mes collègues savent que j'ai une vie littéraire et eu une vie de scène, et je peux l'assumer, mais en fait... C'est pas évident non plus parce qu'on a cette culture de séparer le corps et l'intellect. Et ça se traduit dans tout. Dans le mépris envers les travailleuses et les travailleurs du sexe, ça se traduit envers le culte qu'on va donner aux gens de lettres et le mépris des savoirs qui sont situés et ancrés dans les corps. Donc voilà, c'est toute cette bipartition-là qu'il faut questionner en fait.
D'ailleurs, on arrive à Louise. Et Louise, c'est la putain, la travailleuse du sexe. C'est une figure qu'on retrouve dans absolument tous vos textes. Hein. Elle est centrale dans Insurrection en territoire sexuel, l'ouvrage que vous venez de mentionner. On la retrouve aussi dans, évidemment, La mère, la sainte et la putain, un roman qui date de 2012. Et elle apparaît dans le texte, et je trouve ça assez génial, sous la fourrure d'une mascotte géante de castor, parce que c'est son job de jour. Elle est mascotte dans un supermarché et le castor, figurez-vous, est devenu... l'animal totem de cette nation fictive. Et puis, quelques lignes plus tard, elle écrit « Le soir, à l'inverse, je suis totalement nue au gentleman's club à l'autre bout de la ville. Là, il s'agit de n'avoir aucune fourrure. Jambes glabres, sexe à découvert, aisselles lisses comme une peau de bébé. Ce n'est plus ma tête que j'agite alors, mais mes hanches, mes seins. La chorégraphie diffère. La paye est plus élevée. » Et ce fait de reproduire dans tous vos textes la figure de la travailleuse du sexe, c'est involontaire ou c'est parce que vous avez besoin de marteler ce que vous venez encore de rappeler ?
C'est lié aux luttes, au militantisme que j'ai rencontré dès le début, en fait. Quand j'ai commencé à militer, c'était dans des groupes comme... au début, il y avait les Panthères Roses. Et en fait, toutes ces questions... En fait, au début des années 2000, au moment où je me conscientise politiquement, en tant que lesbienne et en tant que féministe, c'est le moment où je rencontre des personnes qui militent ensemble pour les droits des femmes voilées, pour les droits des travailleuses du sexe. Et tout ça n'est absolument pas incompatible. Il s'agit de lutter pour la dignité et le droit à l'autodétermination des personnes qui font le choix d'avoir des pratiques corporelles différentes dans l'espace intime et public. Et partant de là, en fait, ça devient extrêmement cohérent de lutter aussi bien pour les droits des travailleuses du sexe que pour les droits des femmes voilées à être féministes, en fait. Enfin, c'est-à-dire de déplacer le regard occidental sur qu'est-ce que c'est que le féminisme, qu'est-ce que ça devrait être. Et donc, la figure de la travailleuse du sexe ou de la stripteaseuse, elle traverse tous mes romans parce que j'ai une expérience avec ça, hein, durant mes études, comme beaucoup d'étudiantes. Et en fait, ça, quand on a cette expérience-là, on se rend bien compte que tous les discours qu'il y a sur le travail du sexe dans notre société sont délirants, complètement délirants, et qu'en fait, ils mettent en danger les travailleuses du sexe. Parce que ça fait que leur rapport de pouvoir vis-à-vis des clients... La loi pour la pénalisation des clients, elle met les travailleuses du sexe dans une situation de fragilité, parce qu'elles travaillent dans la clandestinité, donc elles ne peuvent pas imposer des conditions de travail safe, donc elles se retrouvent dans des situations de violence, d'exploitation, parce que leur statut n'est pas reconnu en tant que travailleuse, en fait. Voilà.
Vous-même, vous êtes allé assez loin dans cette exploration politique du corps et ce questionnement aussi de ce qu'on cache et de ce qu'on a le droit de montrer et où on a le droit de montrer. Enfin, c'est aussi assez vertigineux de commencer à réfléchir comme ça. Vous êtes inspiré d'Annie Sprinkle en effectuant des performances où il y avait une véritable interaction physique entre votre corps et le public. Vous avez aussi joué dans des films dirigés par Émilie Jouvet, qui est une réalisatrice porno féministe. Est-ce que d'avoir effectué ce travail-là, ça a changé votre rapport à votre propre corps, votre perception que vous aviez de vous-même?
Oui, et c'est très lié à la jeunesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'utilise plus mon, enfin quoi que non, c'est pas vrai. Ça m'arrive encore d'utiliser mon corps sur scène, mais
comme là d'ailleurs, on est en train de faire une performance.
Non, mais je parle de la nudité. C'est vrai que moi, j'ai un rapport au corps qui est particulier parce que, enfin, qui est comme tout le monde en fait. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que, enfin, je trouve les émotions beaucoup plus impudiques qu'une vulve, par exemple. Voilà. Donc moi, je vais plus facilement montrer mon corps nu qu'exprimer une émotion qui me fragilise devant quelqu'un en qui j'ai pas confiance, par exemple. Voilà. Donc la pudeur, et c'est historiquement situé. Où est-ce qu'on place la pudeur? Qu'est-ce qu'on doit cacher? Et qu'est-ce que ça donne comme moyen de contrôle sur les gens, en fait? Dans quel pays t'apprends la pudeur émotionnelle en même temps que la pudeur corporelle? Où est-ce qu'elle se place? Par exemple, le fait que les gens puissent s'embrasser en public. Ou ne pas le faire parce qu'ils ont peur, enfin, ou parce que c'est pas leur culture. Tu vois, tout ça questionne. J'ai pas répondu à la question.
Mais non, mais voilà, c'est exactement CQFD. Et ce que je trouve que ça raconte aussi, c'est vos allers-retours dans la performance de la féminité, avec des guillemets, parce qu'en fait, dans vos premiers livres, il est énormément question de talons hauts, de corsets, de rouge à lèvres. Enfin, on sent que c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu dans votre chair, que vous connaissez. Moi, par exemple, je n'ai jamais trop porté de talons. Enfin, voilà, et c'est tellement récurrent qu'on voit vraiment que vous avez vécu cette espèce de torture qu'on inflige au corps pour se conformer à certains modèles féminins, et que vous le revendiquez aussi comme un geste féministe, et que vous refusez qu'on vous empêche d'être féministe, qu'on vous empêche d'être lesbienne parce que vous êtes femme. Enfin, c'est très très fort dans vos premiers textes. Et après, j'ai lu aussi que vous aviez un peu abandonné ça, notamment au moment de la maternité. Est-ce que vous revendiquez en fait cette capacité, ce droit à faire les allers-retours qu'on veut avec cette performance-là?
Bah, oui, évidemment. Mais après, il y a une question que j'ai pas résolue, c'est à quel point c'est contre-productif ou pas. D'allier une performance de féminité cisgenre qui n'est pas menaçante, qui passe bien, avec un discours de vulgarisation sur des questions politiques. Moi, j'ai fait ce pari-là. De même que des collègues et amis comme Louise Deville, qui est performeuse burlesque, comme d'autres personnes qui s'expriment sur ce sujet-là. Mais ça peut aussi nous décrédibiliser. Et c'est lié au sexisme. Voilà.
Oui. Bah, quelque part, j'ai beau pas porter de barésie, je me sens aussi un peu concernée quand j'entends ça. Évidemment que ça passe mieux quand c'est moi, blanche, blonde, qui le dit, en fait. Enfin, et dans quelle mesure c'est OK d'utiliser ce véhicule-là qui est mon...
Ça crée un discours qui est plus... Enfin, c'est une parole qui est plus médiagénique, en fait, puisque c'est une interface de féminité qui n'est pas menaçante, qui passe bien, qui est esthétique selon les codes de notre époque. Donc, elle est médiagénique, donc elle passe bien. En même temps, ça peut aussi nous décrédibiliser, en fait. Ça peut être utilisé contre nous. Et moi, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi la médiatisation a été si forte lors de la publication de mon premier roman en 2007, parce que c'était un roman radicalement gwyn, même pas lesbien, Gwyn. C'était un roman qui parlait de sexe de manière très crue. Et puis, j'ai été beaucoup sollicitée par les médias grand public, quoi. Et je me suis dit, en fait, si j'avais été une lesbienne butch, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné? Et pourquoi est-ce qu'on me propose toujours de poser seule pour les photos, pour Marie-Claire, pour Libé, machin? Je me suis rendu compte que c'était vraiment lié à une performance de féminité qui rassure, et qui fait qu'après, un discours plus radical peut être émis, mais qui est comme lissé par l'image. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le média radio, et notamment les podcasts. Je trouve que c'est un très bon choix
I know.
Pour cette raison-là.
Ouais. Non, mais c'est infini. Et puis, il y a aussi la... Parce qu'en fait, la figure de la lesbienne butch, elle est extrêmement présente, en fait, aussi, dans vos livres. Donc, elle mesure... Enfin, il y a ce côté un peu cheval de Troie, en fait, qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre. Est-ce que on peut se réjouir que parce que vous avez cette féminité performée impeccable, on va pouvoir enfin faire émerger la figure de la butch dans la littérature, dans les médias, ou est-ce qu'il faudrait pas le déplorer? Enfin, ouais, je comprends. C'est passionnant.
Mais c'est aussi un truc de choc culturel parce que moi, je me suis aussi politisée à San Francisco au début des années 2000, et là-bas, je voyais des personnes vraiment fabuleuses, ce qu'on appelle des high femmes. Donc des gouines ultra féminines, mais qui sont presque des drag queens en fait, et qui sont fierce. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de culture comme ça de que moi je trouve puissante et radicale, et où tu vois vraiment que les apanages du féminin, ces outils sont des technologies et qu'elles sont utilisées dans un autre langage qui n'est pas celui de l'hétérosexualité, que c'est resémantisé, ce sont des codes esthétiques, vestimentaires qui sont resémantisés dans un autre cadre qui n'est pas hétérosexuel. Et après, j'arrive en France avec tout ça, toutes ces images, toute cette joie. Et en fait, je n'ai pas été décodée comme il fallait du tout.
J'adore cette phrase. Je n'ai pas été décodée comme il fallait. Alors, on passe à Grace, un personnage du roman qui a réussi à s'échapper de la communauté de sœurs juste avant qu'elle soit détruite et qui parvient à s'infiltrer, travestie, et c'est le mot que vous employez, je l'emploie volontairement, dans ce fameux club de gentlemen, grâce à son corps. Qu'elle décrit ainsi, mon propre corps défait la plupart des critères de classification. Hanches étroites, pas de courbes. Oui, j'ai une poitrine. Est-ce un torse? Des seins? C'est difficile à dire. Et dans tous vos livres, on croise des personnages qui sont à la croisée des genres, des lesbiennes butch, des mecs trans, des personnes non binaires. Il y a même des personnages dont on ne connaît jamais le genre, comme par exemple la flic dans Le corps est une chimère. C'est absolument génial parce qu'en fait, on peut lire le roman entier sans se rendre compte que ce personnage n'a pas de genre. Et je trouve que ça raconte bien aussi la convergence, mais que vous racontez en fait depuis le début, entre les luttes LGBT et le féminisme. Ça, ça ne va pas encore de soi pour tout le monde. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que vous êtes sur le dossier, mais qu'apparemment, ce n'est pas encore évident. Pourquoi ça bute autant, en fait? C'est une grande question.
Je ne veux pas parler à la place des personnes butch, des personnes non-binaires, des personnes trans. Quand même, ce que j'observe, c'est que la présence physique d'une personne qui ne joue pas le jeu de la féminité cisgenre, et qui n'est pas une femme cisgenre, et qui porte un discours féministe, ça produit quand même quelque chose de... Voilà, c'est... Moi, j'ai un amour pour les personnes butch, parce que je me dis, en fait, moi, au quotidien, on me fait pas chier, tu vois. J'ai pas peur qu'on me regarde de travers. Et ben, voilà.
Il y a aussi... une visibilité, on va dire, de plus en plus grande aussi sur les transidentités. Il y a de plus en plus de médias qui sont créés. On pourrait parler, par exemple, d'XY, qui est un média qui est entièrement fait par des personnes trans. Et c'est vraiment chouette. Et en même temps, aujourd'hui, on a Valeurs Actuelles qui nous sort une horrible couverture transphobe. On est carrément dans la rhétorique du complot. Est-ce que c'est parce que ça avance que ça backlash aussi fort, selon vous? Est-ce que ça avance vraiment? Vous avez quel sentiment sur ces questions?
Oui, je pense que Valeurs Actuelles, c'est un bon baromètre de où on en est dans le féminisme, au niveau de sa propagation, de sa vulgarisation. Chaque fois qu'on a le droit à une couve, on se dit du coup, les questions de trans maintenant sont à l'ordre du jour dans les médias. Valeurs Actuelles en parle très bien. Ça fait 20 ans que c'est sur. Les personnes trans font des manifs, même plus. Enfin, tu vois. Ouais.
Donc ça veut dire que ça avance. On peut s'en réjouir.
Oui, enfin, en même temps, il y a tellement de violences qui sont subies par ces personnes-là. Régulièrement, tu as des annonces de personnes qui sont suicidées. Enfin, ouais.
Alors, on arrive à Eve, qui est le personnage clé du roman, celle qui écrit ce passage que j'ai lu au tout début de la rencontre, et qui est donc la mère, dans mon espèce de symbolique où je vous découpe en tranches. Elle a dû quitter la communauté des sœurs pour avoir son enfant. Et j'ai lu quelque part que ce geste, il racontait un peu celui que vous aviez dû accomplir, vous, quand vous avez décidé de devenir mère. À quoi vous avez dû renoncer?
Ça a été vertigineux. En fait, alors c'est que mon expérience, je ne parle pas pour les autres mères lesbiennes, Mais devenir mère, ça m'a hétérosexualisée à mort. J'ai passé plusieurs années à essayer d'être une citoyenne comme il faut, à avoir l'air présentable à la sortie d'école, à accompagner les sorties scolaires. Ce que je fais toujours, d'ailleurs, mais maintenant, j'y vais avec mon crâne à moitié rasé et puis whatever, quoi. Mais en fait... En fait, devenir mère, tout d'un coup, il y a tout le poids des... Mais je ne m'en suis pas rendu compte. C'est quelques années après que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis devenue, en fait ? J'ai renoncé à une partie de moi-même. J'ai renoncé à ma fierté d'être Gwyn, en fait. Parce que je suis mère et que, du coup, j'ai peur du soupçon. C'est lourd, quoi. Et puis, en fait, ma fille, elle est née... ma fille est née. Elle est née... elle avait, je crois, un an pendant les débats sur la loi Taubira. La manif pour tous passait sous nos fenêtres. Parce qu'on habitait à l'époque pas loin d'Enfer Rochereau, et à Paris. J'avais des tracts de Alliance Vita dans ma boîte aux lettres. C'était pas que contre moi, tout l'immeuble y avait droit, parce que c'était le hotspot de la manif pour tous, hein, d'Enfer Rochereau. Mais c'est hyper violent, et en fait, je pense que ça a joué un rôle. Et à ce moment-là, je me suis plus exprimée dans les médias. J'ai arrêté d'écrire pendant plusieurs années. Enfin, maintenant que je t'en parle, je prends conscience du truc, en fait. C'est assez... Donc je fais un enfant, Taubira monte au créneau pour la loi sur le mariage gay. La manif pour tous monte au créneau, et moi je suis médusée, et j'ose plus rien dire. Il y a le collectif Oui 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 qui s'est monté, on m'a demandé si je voulais parler, j'étais là, oh là, j'ai un bébé, je sais pas. T'es-tu ? Enfin, on m'a demandé de témoigner, j'étais pas capable. J'étais pas capable, j'étais je crois, sonnée. J'allais faire cours à l'IUT de Marne-la-Vallée, je sortais du RER, il y avait un gars de la manif pour tous, looké comme un mec de gauche sympa, qui me tend des tracts. Je me sentais mais harcelée, en fait. C'était horrible. On est plein à avoir vécu ça. Et je parle même pas des gens qui se sont fait tabasser dans cette période-là, tu vois. Et en fait, je prenais le métro avec ma fille sur mes genoux, les jambes souriaient, parce qu'on est mignonne, ma fille et moi. Mais je me disais, si ces personnes savaient que cet enfant a deux mamans Gwyn et un papa pédé, est-ce qu'il me sourirait ? Et puis je passais sur le boulevard, je voyais les tags de la manif pour tous, avec le père, la mère, les deux enfants, la ribambelle de la famille idéale. Et ma gamine qui passait par-dessus en marchant et qui rigolait parce qu'elle trouvait sa mine. Enfin, tu vois. Ça a été horrible, cette période, en fait. Ça a été hyper violent. Et je suis contente que ma fille était trop petite pour s'en apercevoir. Et ça m'a frigorifiée. Et j'ai passé, je crois, 6 ans à essayer d'être une citoyenne idéale, qu'on puisse rien me reprocher. J'ai pu écrire. Enfin, voilà.
Ouais, et il y a eu... En fait, moi, j'avais l'impression que c'était une rupture qui était physique, que vous aviez peut-être juste cessé de fréquenter certains cercles ou certains lieux, mais en fait, c'est très intériorisé, quoi. C'est quelque chose que vous avez vécu vraiment dans votre chair, quoi. La renonciation à une forme de votre identité, en réalité.
Oui, puis aujourd'hui, je rigole parce que... Enfin, la petite, elle a 9 ans maintenant, et elle me dit des trucs du genre « Maman, mais c'est nul d'être un garçon ou une fille. » Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise « elle », mais... Mais en fait, à quoi ça sert ? Et moi, j'ai fait hyper gaffe de ne pas faire de la propagande sur mes enfants en me disant il faut qu'elle maîtrise les codes dominants de la société pour ne pas se sentir trop aliénée. Et trop... Enfin, déjà, qu'elle a... enfin, voilà, quand tu élèves des enfants et que tu es homo, enfin, en l'occurrence, Gwyn, tu te dis mon Dieu, déjà, je la mets dans cette situation-là. Mais alors, elle a rien à foutre. Quand il y a des copines qui lui demandent c'est qui ta vraie maman, elle dit bah, en fait. Les deux, enfin, tu vois, en fait, je suis fière d'elle et je me dis bon, mais j'ai quand même toujours peur du backlash et des situations où ben t'invites un enfant puis les parents rendent jamais l'invitation parce qu'ils ont compris que t'es pas une famille comme les autres. Enfin, c'est dans le quotidien en fait. C'est pas juste théorique, c'est pas juste des discours, c'est pas juste des manifs, c'est ton quotidien, c'est tes gosses.
Est-ce que c'est parce que il y a eu peut-être cette sidération à l'époque de la manif pour tous que vous montez vraiment beaucoup plus au créneau aujourd'hui, notamment sur la PMA pour tous, qui est le droit que la France promet depuis 15 ans en boucle sans jamais l'accorder aux lesbiennes, aux mères seules et aux personnes trans. Est-ce que c'est un peu pour compenser ça ? Vous avez écrit une tribune notamment magnifique à ce sujet.
Ouais, je pense que je suis sortie du choc, en fait. Et mais je pense que c'est aussi l'époque des débats sur la Taubira. En fait, j'en parle beaucoup dans Le corps est une chimère, de qu'est-ce que c'est que d'être une mère lesbienne dans cette époque-là. C'est comme une radioscopie de la France de la manif pour tous. Et franchement, la manif pour tous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Et j'en veux beaucoup au gouvernement Hollande qui a trimballé le truc pendant des... Enfin,
c'est quelque chose que dit souvent Alice Coffin aussi. Ouais. Alors, je voudrais qu'on termine avec l'enfant. Ça tombe bien parce qu'on y est arrivé. Sa parole écrite, elle apparaît à la fin du roman. Je trouve qu'elle elle incarne l'espoir, la transmission. Votre livre, il finit pas mal, vous insistez beaucoup dessus, mais c'est vrai. La fascination aussi pour la nature. Enfin, elle apparaît, elle observe une petite araignée et c'est hyper touchant. Mais il y a quand même aussi dans votre livre une génération entière de jeunes qui se suicident. Dans le sillage d'une certaine Gaia Walden, une adolescente qui a essayé en vain d'alerter le monde sur la catastrophe climatique. Et j'ai l'impression que vous hésitez en fait, entre l'espoir infini et le désespoir complet sur le monde qu'on va donner à nos gosses, parce que nos enfants ont exactement le même âge. Et moi-même, je ne sais pas.
On le sent chez les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. J'ai des étudiantes et des étudiants qui... Je sens vraiment... chez les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, cette espèce de balance entre une énergie folle de changer les choses, et puis ils sont beaucoup, leur conscience politique sont beaucoup plus acérées que la mienne à leur âge. Je suis épatée par les jeunes d'aujourd'hui, vraiment. Enfin, après, c'est lié aux réseaux sociaux, au fait que l'information est beaucoup plus disponible, que les échanges sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus latéraux. C'est pas une information qui descend des médias vers le peuple, c'est le peuple qui s'échange des infos. Enfin, on l'a vu là avec la Palestine, on a des images qui nous arrivent directement des personnes qui sont là-bas, en fait. Donc c'est aussi cette génération-là. Mais il y a aussi un grand désespoir. Et ouais, je suis inquiète pour eux et elles.
Pour les vingtenaires et pour les petits. Et
pour les petits, je... Ouais.
Même pas envie d'y penser.
Non.
Bon, vous avez écrit une thèse, vous avez publié 8 livres, et pourtant hier, sur Instagram, on s'envoyait des DM, vous et moi, où on se racontait la pression qu'on se mettait, qu'on était toutes les deux en train de relire tout Donna Haraway, juste au cas où. ce qui raconte quand même que le complexe d'impostrice continue de nous saisir, malgré tous nos accomplissements, parce qu'on a été socialisés en tant que femmes et qu'on n'y peut rien, quoi. Et alors, je cherchais la solution... une clé, et je me suis dit que justement la sororité, ça pouvait être une bonne solution pour lutter contre ce truc. Je veux savoir ce que vous en pensiez.
J'avoue que les DM m'ont aidée. Je me suis dit, bon, c'est une super bosseuse, son travail d'une qualité incroyable, parce que vraiment, c'est hyper référencé. En tant que chercheuse, je vois bien que le travail qui est fait avec ce podcast, c'est pas juste un travail de vulgarisation. Il est vraiment sourcé, enfin, il y a une rigueur. En tant que chercheuse, elle apprécie. Du coup, j'étais là. Mince, la conférence est intitulée Féminisme et dystopie. Je ne suis pas chercheuse en littérature. Bon, alors il faut que je complète mes références. Bon, et du coup, le fait qu'on s'en parle et qu'on rigole ensemble de ce complexe de l'impostrice, je me suis dit en vrai, mais si on reste chacune dans notre coin, terrorisée à bouffer des bouquins pour être la plus performante possible le jour J, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de rigoler ensemble du complexe de l'impostrice. Et du coup, de se dire, en fait, on a assez bossé.
Mais moi, je me disais pareil. J'étais genre, elle a une thèse, elle est docteur. Il doit y avoir 10 000 refs dans le bouquin que je ne vois pas. À tous les coups, elle est en train de quoter Ursula Le Guin. Je n'ai même pas vu le passage parce que je n'ai jamais lu Ursula Le Guin. C'est la honte, il faut que je le dise. Enfin bref, ouais. Donc voilà, on fait pareil. Et on s'est toutes les deux apaisées. Mais cette notion de sororité, elle est aussi centrale dans le livre. Enfin, ce que je trouve aussi vachement intéressant, c'est que c'est une communauté, on comprend qu'elle n'est pas composée que de femmes cis. C'est décrit de façon très organique. On comprend qu'il y a des femmes trans, qu'il y a des hommes trans, qu'il y a des personnes non binaires et qu'en fait, au fond, peu importe. Mais qu'il y a quand même le mot sœur qui est resté. Et je me suis dit que ce mot sororité devait avoir quand même une importance pour vous, alors qu'il y a certaines personnes qui hésitent à le conserver dans le mouvement féministe en ce moment.
Il y a deux choses. Il y a le fait que le choix du féminin pluriel comme choix politique, même si ça ne reflète pas toutes les identités de genre, c'est la communauté de résistantes et de résistants que j'imagine dans ce roman, choisit, je l'écris à un moment donné, choisit le féminin pluriel pour s'autodésigner. Bon, ça, c'est une référence à Wittig. Après, le mot sororité, il a une histoire. Il a été réintroduit en littérature, notamment par Chloé Delhomme, qui est une autrice magnifique, à qui on doit énormément et qui écrit depuis longtemps des textes hyper importants. Donc je me suis vraiment réjouie qu'elle ait eu le prix Médicis pour son dernier roman. Et ça, la manière dont elle réintroduit ce terme de langue française en littérature, l'usage qu'elle en fait, il a une très grande puissance politique. Après, il se passe pour ce terme-là, ce qui se passe aussi pour le féminisme de manière générale, c'est que quand quelque chose passe mainstream, il y a les côtés plus abrasifs du concept, comme le terme de genre, en fait, le concept de genre. Les aspects plus abrasifs vont être lissés par sa popularisation. Mais c'est le jeu, en fait. Enfin, à chaque fois qu'une subculture politique passe mainstream, enfin, ou commence à être relayée par les médias légitimes, considérés comme légitimes, il y a quelque chose de l'ordre du lissage qui se passe. Et ça n'empêche pas de continuer à réintroduire de l'abrasif là-dedans, quoi.
Donc on garde le mot, mais on maintient le côté un peu gênant aux entournures, sinon c'est pas drôle.
Par exemple, le côté abrasif de la sororité, c'est la question de la non-mixité. Désolé.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est pas juste on est frangine, on s'adore, c'est cool, on s'envoie des DM. Non, c'est la non-mixité est une nécessité politique. Voilà, les non-mixités seront une nécessité politique. Et c'est très très grave ce qui s'est passé au Sénat. C'est très très grave que ce soit remis en question. De toute façon, si ça dérange, c'est que ça a bien une utilité politique. Et je parle des non-mixités racisées, entre personnes trans, qui ont des... Enfin, voilà.
Il y a certaines mixités qui passent très bien, hein, parce que, par exemple, le Sénat est une assemblée non-mixte de personnes blanches, 80% des hommes.
En fait, si quelqu'un est gêné par une non-mixité, quelle qu'elle soit, de se poser la question « Pourquoi je suis gênée, en fait ?» Pour moi, il me semble évident, j'ai participé à une résidence d'écriture il n'y a pas longtemps, où les personnes racisées ont fait un atelier entre elles, et ça me semblait mais tellement évident que je... Enfin, que juste, voilà... J'ai rien à en penser, en fait, à part que c'est super que ça puisse exister, que c'est hyper dangereux que le Sénat veuille l'interdire. Enfin, voilà. Donc, juste, si on est gêné par une non-mixité, c'est faire un retour réflexif sur « Eh ben, pourquoi ?»
Ouais. Et en même temps, avec cette allusion à la non-mixité racisée, ça, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux critiques qui ont été émises, notamment par Bell Hooks, où je sais que vous êtes une grande lectrice d'Audrey Lorde, sur cette notion de sororité, qui aurait tendance aussi à vouloir faire croire que la discrimination de genre, elle est au-dessus de toutes les autres, et qu'il faut que toutes les femmes se donnent la main, qu'elles soient noires ou blanches, finalement, peu importe, parce qu'en fait, on subit tout le sexisme, ce qui peut donner au final... une invisibilisation des problématiques propres aux femmes non blanches, par exemple.
Il y a des moments où il faut se donner la main. Il y a des moments, par exemple, les manifs pour les droits des travailleuses du sexe, il faut tout y aller, en fait. Voilà, les manifs contre l'islamophobie, il faut tout y aller, en fait. Voilà. Les manifs contre le racisme, il faut tout y aller. Juste, à un moment donné, le discours politique qui est porté par les personnes concernées doit être, enfin, gagne à être élaboré par les personnes concernées, sans qu'on les pollue avec nos avis, en fait.
Excellent rappel. Tout à l'heure, vous citiez Juliette Rousseau, et je sais pas, en évoquant ces micro-querelles qu'il peut y avoir autour de la notion de sororité, bah, ça m'évoque aussi toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le milieu militant. On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, on appelle ça parfois call-out culture, cancel culture, pureté wokisme. Militante, wokisme. Alors, wokisme, c'est les gens droits qui appellent ça comme ça. Mais
moi, j'étais là, je vais faire une story avec un woke, et dedans, je vais mettre plein de mots qui rissolent.
Ah oui, hein. J'avais pas. Alors, donc non.
Genre non-mixité.
C'est pas mal, ça pourrait marcher sur TikTok.
Ouais, s'il y a des créas qui sont. Moi, je suis pas créa, je travaille les mots, pas les images.
Non, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression en ce moment, quand je parle avec d'autres militantes, que ça se tend, qu'il y a vraiment beaucoup trop de tensions au sein des mouvements féministes, etc. Vous qui faites partie de ces mouvements depuis 20 ans, est-ce que vous avez l'impression que c'est pire? Est-ce que c'est normal? C'est toujours comme ça?
Non, mais c'est normal, évidemment. Bah, sinon, là, on ne progresse pas, en fait. Si on s'engueule pas, on ne progresse pas. Ça fait partie du jeu. C'est important. Et puis, il faut accepter les retours critiques, en fait. C'est hyper important.
Et garder la joie, non? C'est aussi un peu ce que vous rappeliez en début de rencontre. Où est-ce qu'on la trouve, cette joie, typiquement?
Dans les moments collectifs. Dans les moments collectifs. Mais ce bouquin, j'ai mis 3 ans à l'écrire, j'étais hyper seule. C'est un travail très solitaire. Et par exemple, les ateliers d'écriture, c'est des moments de partage de textes et de partage de vécu et de les manifs. Voilà. Alors après, il y a des manifs où tu finis gazé, où il y a des gens qui se font crever l'œil. Bon, voilà, c'est... Mais il y a la joie aussi.
Il y a de plus en plus des manifs comme ça. Hein. Puis il y a les conférences à Carreau du Temple.
En présentiel.
Wendy Delorme, c'est pour quand, la révolution?
Elle est toujours là, en fait. Il y a des moments de pic. C'est comme un océan. Ça va, ça vient. Enfin, il y a du mouvement, il y a des tourbillons, il y a des orages. Et de dire la révolution va venir, c'est une sorte d'horizon politique, mais elle est tout le temps là au quotidien, en fait, dans tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas.
Et ça évoque quoi pour vous, la poudre?
Une flamme, un embrasement, une explosion.
Viendra le temps du feu. Merci infiniment, Wendy Delorme. Merci.
Merci, Lorraine Bastid.
Merci à Wendy Delorme d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.